והבוטחים באמת בהשם בלב שלם. אצלי קהילה ברמו לביטחון בהשם, עם ביטחון בלב שלם. הייתי פעם בלב שלם, הייתי בלבב שלם. וזה כבר בלבב. לבב, שקום לגמרי, להקספיק דפו היה מרקל לב, דפו היה מרקל לבב. לבב, שרגיר לדי קוטה דקר, קוטה גוש, קוטה דרועת. יהיה עם קוטה דקר, כי לדרועת יהיה דתות פשון, ויהיה עם קוטה דקר, כי לגושה. אבל שלי, כי לבוטח בהשם בלבב שלם, שזה תקרים, הרניר, שדי קוטה דקר, וכלדי קוטה, כי במוכם הוא עבור לביטחון בהשם. לא מן השפה ולחוץ כדרך רבים מעמי הארץ. אפקו מוסעריב שבוקו דעמי הארץ, עמי הארץ ודיר דז'ון סן, כאידיז סוע דיזון כיזון לביטחון באשם, כיזון בוקו דפואה, בוקו דקונפיונס, מה זה מן השפה ולחוץ, זאת אומרת, איסג'י דקלרציון. comme le chazon ish il appelle ça metzafsefim bitachon. Metzafsefim, ça veut dire les chiffres des, c'est pas les chiffres, c'est les chants des oiseaux. Les oiseaux, vous les entendez chanter, on dirait des grands compositeurs, mais en vérité ils font juste des mécanismes, ce sont pas des vrais artisans. Donc Amei Haaretz metzafsefim bitachon, ils sont en train de siffler bitachon bitachon, mais c'est mina safa ou l'écoute, ça veut dire c'est à partir des lèvres et l'extérieur. Et à l'intérieur, ce n'est pas comme ça. Comment est-ce qu'on sait? Les autres ibachadou, et voici les tests. Inkeinimen, c'est ainsi qu'on peut vraiment tester s'ils sont sérieux. Keinim, c'est sincère. Keinim, c'est ken, oui. Et keinim veut dire aussi comme kan, en hybride, qui veut dire base. Il y a Kior et Kano. Il y avait un Betamigdash. Kior et Kano. Donc les Kior, c'est les vieilles, la bassine dans lesquelles les Kohanim se lavaient. Et les Kior, elles étaient placées sur un Kan, sur un certain base. Alors ça s'appelle Kan. Sok, base. On va dire Sok en hybride, c'est Eden. Kan, c'est plutôt une base, bassis. Kan, c'est Kafnun. Donc les trois mots, keinim, ken, kan, keinim c'est sincère, ken c'est oui, et kan veut dire base, sop, qui il veut dire quand est-ce que je peux savoir si la parole de la personne est une parole sincère, quand il a une base. Ça veut dire si ce n'est pas une parole, ce que les Français appellent blabla, et là c'est une vraie chose fondue. D'accord? Quand il a un fond, alors ça tient. Alors, בזאת יבחנו אם כנים, שלא יבטלו רצונו כדי להשיג רצונם. שלא יבטלו רצונו כדי להשיג רצונם. פירושו, ils vont pas se permettre de mettre de côté et d'annuler les envies d'Hachem, les désirs d'Hachem, כדי להשיג רצונם pour obtenir les choses qu'ils veulent. Donc, exemple très grossière, une personne qui va aller travailler Shabbat, parce qu'il doit gagner sa vie, ben il doit gagner sa vie, il n'y a pas de doute qu'il doit gagner sa vie. Mais si il trouve nécessaire d'accepter de travailler Shabbat, alors il n'est pas Baal Bitachon, on ne peut pas dire qu'il est bouté à Hachem. Parce que si Hachem lui a dit en clair, il ne faut pas travailler Shabbat, et lui, il dit maintenant, bon, qu'est-ce que je vais faire, je dois quand même travailler, et il va travailler Shabbat, il n'a pas de bitachon. Une personne qui pense qu'il ne peut pas gagner sa vie sans travailler Shabbat, il n'a pas de bitachon. Bien sûr que ça c'est un exemple très gros, mais il y a des exemples beaucoup plus fins que ça. Mais chaque fois, quand une personne, il aimait battre le retsono, ça veut dire qu'il met de côté retsono Hashem pour obtenir des choses qu'il lui veut, il ne peut pas me raconter après qu'il est moté à Hashem et qu'il dit qu'il peut tout faire et qu'il tout dépend d'Hashem, et même s'il va me dire 10 ou 15 fois par jour, Bezrat Hashem et Mirza Hashem, Blineder, je ne prends pas ces paroles en sérieux. Parce qu'il ne croit pas vraiment que c'est Hashem qui gère les affaires, que c'est Hashem qui gère le monde et que c'est Hashem qui gère le monde de travail aussi. Sheim bitronam b'Hashem. Car si, ces gens-là, ils sont de Hashem. Hayyuman ki supar. Est-ce qu'on peut croire, si on va raconter, שיבטלו רצון קונם כדי להשיג רצונם? כי אם עומד בקוטה עשה כי השם ילדי אונקלר, הוא רופטוניר לרזובי. והוא יהיה עזרם ומגינם. הקדוש ברוך הוא היא לקונסידרי פורי קום עזרם, זאת אומרת קום לר עד, ומגינם מקום לר פרוטקשיון, סרטן מופע. ואשר עושים רצון קונהם, ומניחים עסקיהם בביטחונם באלוקים. אצלי, כי יפסה כי הקדוש ברוך הוא יהיה מונדה. ומניחים עסקיהם, אילה דקור דמד דקותה סזפר. בביטחונם באלוקים, פסקי זו עוברמו לביטחון באשם. האפשר שבשביל כך יקופח פרנסתם או יתמחק קובתם, אסקי אופק רואה, כי פסקי לפרסון אלה יקוטה הקדוש ברוך הוא, ספרנסה והדימינואה, il va gagner moins, ou bien il t'mahet tovatam, où il aura un autre dégât qui va lui arriver. Alors moi je réponds, oui. Ça peut être. Ça peut être au titre temporaire, comme une épreuve. Parce que souvent ça peut arriver qu'une personne décide d'arrêter de travailler Shabbat, d'arrêter de travailler autour, et il va voir tout de suite une baisse des chiffres d'affaires importants. Et ça risque de remettre en question sa bonne décision. Alors il faut savoir que ça fait partie des Darchei Ashgaha, des Darchei Anaga, ce sont les chemins de Kadosh Baruch Hu, qui souvent, quand une personne prend une bonne décision, il va lui mettre tout de suite des obstacles sur sa route pour justement tester est-ce que la décision elle est prise dans la facilité ou à cause d'une raison particulière. Vous savez, des fois il y a quelqu'un qui est malade, chas v'shalom, ou des fois il y a un bon événement qui arrive. On dit, bon, à Kadosh Baruch Hu, parce que tu étais gentil avec moi, je serai aussi gentil avec toi, et je m'engage de ne pas travailler Yom Tov. Jusqu'à là, je n'ai pas travaillé seulement Shabbat, mais maintenant, je dis Yom Tov. Et pas seulement un jour de Yom Tov, je suis d'accord de ne pas travailler 10 jours de Yom Tov. C'est une crise de générosité. Vous voyez? Alors, la personne indécise qui ne va pas travailler les 10 jours de Yom Tov, et juste, il y a un des clients goy le plus important qui lui appelle, elle lui demande un rendez-vous très très important, le jeudi, 8e jour de Pessah, une très grosse affaire, il s'agit de quelques centaines de milliers de zéros qui sont sur la balance. Vous voyez, alors là c'est très très difficile à refuser le rendez-vous. Alors on commence à calculer, peut-être quand même je vais faire quelque chose, je vais quoi? Je vais marcher à pied, je ne vais pas prendre la voiture. Et je vais déconnecter le système alarme pour qu'il conduise le volet, il ne va pas. Et je vais laisser une mini truie dans le magasin pour que je ne serai pas obligé d'allumer les lumières. Vous voyez, je vais vous montrer tout un projet, comment est-ce qu'on peut faire la chose avec les minimums des interdits. On peut trouver des solutions. Mais sauf, après tout, c'est clair qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un magasin qui est à nous quand il s'agit de Yom Tov, c'est évident, il n'y a même pas une question là-dessus. Alors, si la personne, le Machal, il va s'imaginer que son père, il est chas v'shalom malade, et il est en état grave, et il doit être à l'hôpital à côté de son père, qu'est-ce qu'il va te répondre à cette client goy? Ça veut dire, je suis vraiment désolé, j'aimerais bien... te voir encore plus que toi tu viens me voir, mais malheureusement, j'ai un problème familial très important, mon père, etc. Donc, sois compréhensible, je peux te voir seulement le vendredi. Je ne peux pas le gérer. C'est comme ça qu'on aurait répondu si c'était notre père dans l'état qu'on a dit. Maintenant, il y a Avinu Shebashamayim qui nous dit en clair, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il a dit, non. Nakhon, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas malade, Baruch Hashem, il n'est pas à l'hôpital, il est en bon état, il n'a pas besoin de notre Bikur Cholim. Nakhon. Et alors, et c'est ça la raison justement qu'on doit s'en ficher de lui, qu'il nous a dit quelque chose et qu'on ne va pas tenir compte, c'est pas une raison. Bien sûr que non. Alors, on peut dire à cette goy, écoute, j'ai un problème grave avec mon père, et je dois le régler juste le jeudi, et je ne peux pas te recevoir le jeudi. Okay, c'est possible que l'ego ne va pas comprendre si je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est Yom Tov chez lui, chez le Galouyot, tu veux dire. Ouais. Alors, c'est peut-être pas la peine de rentrer en discussion, on lui donne une réponse quelconque, Mais on ne fait pas de rendez-vous, c'est clair. Et je veux dire, souvent les gens, j'ai entendu des gens ça, et chaque fois ça me fait très mal aux oreilles. Ils me disent, bon, Shabbat j'ai déjà accepté de ne pas travailler, ils entendent des jours, c'est trop. Vous voyez, ils entendent des jours, c'est trop. Alors, il y a les chassidim qui travaillent qui est Yom Tov Sheni, et les pachot chassidim, ils travaillent aussi Yom Tov Rishon. Parce que vous comprenez, après t'as fermé Shabbat, et après refermer mes crédits jeudi. On casse la semaine, c'est pas possible. Donc, il y en a qui vont faire Chetio Lachem, Chetio Lachem, moitié pour Hachem, moitié pour moi, Yom Tov Rishon s'est fermé, Yom Tov Sheni s'est ouvert, et il y en a ceux qui disent, ça y est, j'ai payé déjà Shabbat, j'ai pas ouvert, mais Yom Tov, c'est même pas la peine de me parler. C'est comme ça, et voilà. Ces gens-là, je les regarde encore moins bien que les gens qui travaillent Shabbat. Peut-être qu'ils font moins d'avérotes si on fait de la comptabilité, vous voyez. Parce qu'il n'a pas ouvert Shabbat quand même. Celui qui loupe Shabbat, il fait aussi l'avérote Shabbat. Mais celui qui loupe Shabbat, au moins, je comprends sa logique. Lui, il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il peut lui trouver sa parnassa, même en n'est pas ouvrant Shabbat. Mais celui qui croit déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de travailler pour lui presque 50 jours dans l'année. D'ailleurs, nous 50 Shabbatot. Alors, c'est les quelques jours des fêtes qui vont faire au maximum 6, 8. Oui, c'est ça qui va casser Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est capable de remplacer 50 jours, mais il n'est pas capable de remplacer 58 jours. Ça, c'est un regard tellement ridicule, tellement. Mais pas infantile, c'est un regard de bébé. Ça n'a aucun sens. Mais il y a des gens qui ne se gênent pas de les dire. Juste dernièrement, j'ai eu une affaire cette Pessah avec un ami qui, il y a des années, il a travaillé Shabbat, après il a arrêté, il a travaillé Yom Tov. Et bon, prochain, il a arrêté ça aussi. Donc cette année, il n'a même pas ouvert Chol HaMoed. Il a décidé que. Non, mais ça vraiment, c'était. À Koutz l'arrêt, c'est une épreuve très difficile. De ne pas ouvrir Chol HaMoed, c'est beaucoup. Je reconnais. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné quand même un sourire. C'est qu'il y a une type qui lui devait de l'argent pour une marchandise qu'il a acheté chez lui il y a 10 ans. Il n'a pas payé 10 ans, vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui paye une dette au bout de 10 ans sans qu'il le réclame? Jamais de la vie. C'est un miracle presque qu'on crée à terre souffle. Alors, les types, il est venu et il a rencontré la personne qui était en Eretz Israël. Il a passé Pessah en Eretz. Il a fermé, il est allé en Eretz Israël. Il se rencontre à Pessah là-bas, en Eretz Israël. Et l'autre, il dit, ah, je suis content de te voir. Parce que tu te rappelles, il y a 10 ans, je t'ai devais de l'argent et après, je déposais le bilan. Mais ça ne me manque même pas l'esprit de ne pas te payer. 10 ans, il a disparu de la marge. Il n'est pas là. 10 ans, il ne s'est pas vu. Et il le rencontre en Eretz Israël, il lui sort de la poche l'argent liquide et il lui rend. 400 000 francs, c'est comme ça. 400 000 francs. Voilà. Et l'autre, c'est pas un tzadik exceptionnel. Et mon ami, c'est pas une personne agressive. Ça veut dire qu'il ne va pas lui envoyer des bandits qui vont lui faire peur ou quelque chose comme ça. C'est arrivé tout seul. Alors, en vérité, c'est pratiquement comme gagner 400 000 au loto, c'est clair. Ça revient au même, parce que de récupérer une dette après 10 ans, surtout si c'est la société d'origine et a déposé le bilan, c'est désespéré. On ne pense même pas à ça. Ça veut dire qu'il a gagné, il a trouvé dans la rue 400 000 francs. Voilà. Et ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est pas chaud, c'est parce qu'il a fermé pour la moindre. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un sourire. Mais il faut savoir que les sourires, ils ne viennent pas tout de suite. Les sourires, des fois, ils viennent au bout d'un an, des fois, ils viennent au bout de 2 ans. D'accord? Alors, c'est lui qui va fermer Shabbat la première fois de sa vie, et il attend qu'il monte Shabbat, il va trouver en dessous de la porte. Il faut qu'il comprenne qu'il se trompe. Et ça, ça ne s'appelle pas bitachon. Ça s'appelle business. Ça veut dire la personne, il essaye de marchander avec Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, voilà, tu vois, moi j'ai fait de mon côté ça, maintenant je vais voir qu'est-ce que tu fais toi de ton côté. Alors on ne parle pas de ça. On parle des vrais bitachon. C'est quoi bitachon? Bitachon veut dire que on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de m'aider. Et on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il saura comment le faire, à quel moment et par quel canal. Par où ça va passer, c'est aussi pas notre affaire, c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas à nous de faire Akadosh Baruch Hu des signes, de lui dire, tu vois, j'ai coché au loto 6 numéros, donc si ça ne te gêne pas, je veux bien que les 6 en question, ils seront les bons. On a le droit de faire peut-être le loto, c'est pas de ça que je parle. Mais on n'a pas le droit de pousser Akadosh Baruch Hu au bout et d'essayer de lui forcer de passer par là ou de passer par là. L'exemple, c'est l'exemple de mon ami Lach, je vous dis. Est-ce qu'il pourrait demander à Kadosh Baruch Hu, mets dans la tête de quelqu'un qui me doit, il y a 10 ans de l'argent, qui va me rencontrer justement en Eretz Israël, et qu'il aura dans la poche la somme et qui sera assez gêné pour me les payer. Qui peut penser à une chose pareille? Ça, c'est une vraie but à prendre. Vous comprenez? Et en plus, c'est arrivé à, tout de suite après Pessah, ça veut dire vers la fin des mois, le type il a de l'échéance qu'il doit payer à la banque tous les fins de mois pour son affaire, et ça lui a aidé justement à égaliser. Vous comprenez? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a ses systèmes et ses sens, et ça passe par. Je ne vais pas vous raconter des choses qui viennent de mon expérience, parce que je ne vais pas personnaliser l'affaire, mais je vous dis juste que j'ai vu chez moi-même plusieurs fois, pas une, pas deux, pas 10, et pas 20, et pas 50, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses moyens à. Régler les affaires de façon très très intelligente. Même si moi je vais investir des heures et des journées de réflexion, je n'arriverai pas à arranger les choses qu'Akadosh Baruch Hu il a arrangées. Ça c'est bitachon. Alors je ne dis pas que j'ai vu dans cette bitachon tout le temps, mais comme j'ai vu des échantillons, alors je suis relativement relax là-dessus. Je ne manquais pas trop. דין לפלא יועץ, חלילה וחס, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. זה פסוק, כי אברהם אבינו היא לדי הקדוש ברוך הוא. אסקה לג'יג' בטוט לטר, דמון דנציה, לא יעשה משפט, אם פרפה לג'יגמו. סי לג'יג' אין דו ג'יגה. סינו, היא פוקים דימישיון. נוסי יום פרוע, כי הקדוש ברוך הוא יהיה שופט כל הארץ, ודיר כה, תוסקי פה, סינון לג'יסטיס. C'est juste. Et on ne doit pas penser que si nous, de notre côté, on va faire le nécessaire, on sera perdant. Sauf, comme je vous ai dit, il y a une question d'épreuve. Et l'épreuve, c'est vital. Et sans épreuve, ça ne marche pas. On n'a pas le droit même de mentionner une possibilité pareille qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire des choses qui sont injustes. Adraba, c'est juste le contraire. Abote, achal, faritsuto, verovishtad, luto. C'est lui qui a plutôt la certitude et qui se repose plutôt sur quoi? Al charitsuto, sur le fait qu'il lui est un grand débrouillard et qu'il est un bosseur, un travailleur et qu'il sait vraiment se tuer pour son travail, comme les gens disent avec beaucoup de fierté. Oh, c'est beauté Arbada. Ou bien, il se fixe l'idée dans la tête, celui-là, il va m'aider. Et donc, il ne laisse pas la paix à l'autre. Et il tombe sur lui de nouveau, chaque fois, donne, j'ai besoin, il m'est fort, etc. Manichim otom beyadmi shibote arba. Via kadosh barou, tu sais quoi? Toi, tu penses que tu es un si grand bosseur? Alors, bosse. Moi, je m'en retire de l'affaire. Débrouille-toi tout seul. Tu veux compter sur la personne pleuvire ou venir chez moi le vieux d'Afakasha. Mais moi, je ne suis plus là. Je ne m'occupe plus de toi. Donc, si on fait les comptes, est-ce que c'est lié de mettre son confiance sur un être humain quelconque qui aujourd'hui il est là et demain il risque de mourir? Aujourd'hui, il a de l'argent et demain il risque de le déposer. Aujourd'hui, il est gentil. Demain, il suffit que quelqu'un va le mettre en colère pour qu'il va tout renverser. Ou bien de compter sur Akadosh Baruch Hu qu'il est toujours le même et que tout ce qu'il fait est juste et équilibré. Moi, je préfère franchement avoir affaire avec Akadosh Baruch Hu. Il y a X temps, il n'y a pas longtemps, certaines dames qui se trouvent le mettre dans un état très difficile. Je ne dis pas que non, elle n'est pas là, elle n'appartient pas à ce groupe. Elle a envoyé une lettre aux 7 rabbinim, 7, Sheva. Et donc la lettre, elle a fait, elle a mis peut-être une vingtaine de pages, qui raconte sa vie et toutes les difficultés dans lesquelles elle se trouve, avec des preuves juridiques, judiciaires, des faits d'huissier, toutes sortes de ennuis qu'elle a avec les MPO et avec les OSAF, et avec. Elle a fait les comptes qui, bon, elle a en tout des dettes de 37 000 euros. C'est honorable, elle a dit. Alors, elle a divisé en 7. D'accord. Je ne vous invente pas des histoires, je vous raconte des choses qui m'arrivent à moi. Parce que moi je fais partie des 7 élus, il faut pas oublier. Alors, la passagère, 37 000 euros en 7, ça donne, je crois, quelque chose comme 9 000 euros au M. Cazé. Et donc, elle a dit que si chacun de vous il va faire l'effort de me trouver 9 000 euros, je suis sauvé. C'était un bon calcul, non? Toute la question, il y a des questions. Une, de où est-ce que ces pauvres rabbins ils vont avoir 9 000 euros, chacun?
C'est pas 9 000.
Et deuxièmement, est-ce que vraiment, parce que quelqu'un reçoit une lettre comme ça, il doit trouver 9 000 euros, même s'il est capable, disons, d'aller les ramasser. C'est quelque chose qui est l'infini. Imaginez-vous que tous les gens qui ont des problèmes de ce genre, ils vont envoyer des lettres aux quelques rabbins dans lesquels ils vont leur fixer leur quota. Les rabbins en question, ils seront obligés de régler son dette. Vous comprenez bien que ce n'est pas évident de tout. Alors, je ne rentre pas au détail. Et je vous explique pas pourquoi j'ai eu le mérite de faire partie de ce groupe, de cette rabbinine. Mais, fin de l'histoire, il est que tant que je sais, parmi les 7 rabbinines, personne n'a fait quoi qu'il soit, chacun à cause de ses raisons. Il y a un qui ne fait pas, il y a l'autre qui ne veut pas, il y a le troisième qui pense que ce n'est pas justifié, n'importe. Ce n'est pas le problème. Vous voyez ? Et la dame, elle a trouvé sa solution autrement. Autrement. C'est-à-dire qu'elle, elle a fait quoi? Elle s'est adressée à cette personne. C'est comme qu'il s'est décidé dans la tête qu'Akadosh Baruch Hu doit l'aider par cet moyen. Vous voyez? Alors, elle a bien préparé la lettre, elle a bien fait ramasser tous les documents qu'il faut pour qu'il y en aura le maximum de Rahmanout sur elle, pour ramollir notre cœur dur, etc. Vous voyez? Mais Akadosh Baruch Hu, je ne dis pas qu'il ne devait pas le faire, je ne sais pas. D'accord. Personnellement, la façon comme ça de taxer, de décider d'avance combien va donner chacun, ça me paraît un peu trop dur. Mais le problème n'est pas là maintenant. Je dis juste, une personne, il pense qu'il peut faire des projets. D'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand on a le bitachon, le bitachon, il dit que nous, on doit faire des choses normaux. Les choses normales, ça veut dire d'essayer d'aller travailler, de trouver un travail, de gagner notre vie correctement. Et si on a un besoin exceptionnel, alors il faut laisser Akadosh Baruch Hu faire. Et lui, il a déjà ses moyens. Il sait bien comment il faut faire. Et ce n'est pas la peine de lui apprendre, de lui enseigner comment est-ce qu'il faut le faire. Alors, si la personne il va dire, moi je vais faire, je suis intelligent, j'essaie. Alors j'ouvre la liste des rabbinines de Paris, j'ai choisi parmi eux ceux qui je peux soupçonner qui sont des brouillards, ils vont trouver peut-être quelqu'un qui et après il va aller trouver quelqu'un qui saura écrire les lettres, qui plaire au maximum, etc. etc. Il est boter de Rov Haritzuto, de Rov Ishtadluto, il est aussi boter Adam. Donc c'est quelqu'un qui a de la bitachon, pas sur Akadosh Baruch Hu, là il a la bitachon sur qui? Sur son travail et sur les Bnei Adam. Parce que les rabbinim sont quand même des êtres humains, après tout, ils ne sont pas des anges. Donc, quelqu'un qui est boter Badam, Akadosh Baruch Hu, il risque de lui dire, tu es boter, bon alors débrouille-toi avec lui. Il est appelé Yoetz, mais il me chaa, mazalozro. Et même si, il se trouve, que cette personne-là, il a un moment de chance. Son mazal lui est. Et l'Ignan des Mazal, c'est un sujet pour soi que je ne vais pas parler maintenant. Mais chacun il sait qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle Mazal. Et des fois, quelqu'un, il a un moment de Mazal et il a gagné beaucoup d'argent. Alors, il y a deux possibilités. Ou שמשלמים לו איזה מצווה אל פניו לעבידו. Il est possible que cette personne ne mérite pas cet argent. Seulement, il a fait une fois une grande mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de lui au Gan Eden. Ce n'est pas un voisinage qui lui convient. Donc, il va lui donner beaucoup de Olam Hazeh, dans le but justement qu'il va être compensé ici, pour que quand il arrive là-haut, il va partir directement en Guinée. Il a fait une seule mitzvah, cette mitzvah, il les gagne ici. Or, je me souviens de ce mitzvah et parle à l'avideur, sauf il tapait un galgal à l'av. Cette personne-là, il ne va pas garder cet argent pour toujours, ça va retourner. Les galgals, c'est les ronds qui. Ça tourne en rond. Et les roues, il va tourner. Et il va se trouver de l'autre côté. C'est l'histoire fameuse de la Gemara qui a raconté Rabba Bar Bar Hana qui se trouvait un jour dans le désert. Et le soir, avant de se coucher, il a pondu son sac dans lequel il y avait tous ses biens, la nourriture, les vêtements, l'argent, sur un petit quelque chose qu'il a trouvé là-bas, comme un poutre, dans le désert. Et le matin, il s'est levé, il n'y a plus rien. Alors, il était très étonné parce qu'il n'y avait personne qui l'a passé la nuit et qu'il a besoin de ce sac. Alors, il y a un Ismaélite qui arrive, un arabe. Alors, comme les Bédouins sont les habitants du désert, Rabba Baba Hana, il lui dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, qu'il est soir, j'ai déposé ici. Il a dit, est-ce que c'était un petit poutre? Il a dit, oui. Alors, il dit, c'est très simple, ce petit poutre, il fait partie en vérité des galgales, des ronds qui tournent tout le temps. Et c'est comme ça, aujourd'hui on en a, demain on n'en a pas. Alors, si tu vas attendre ici 24 heures, tu vas voir qu'il est soir, ton sac, il va retourner. C'est ça l'histoire qu'il a demandé, elle raconte. Alors en vérité, il y a pas plusieurs histoires comme ça, elles sont très jolies. En vérité, je ne sais pas si on est obligé de croire qu'il y a vraiment comme ça un rond qui tourne comme un genre de grand, comment s'appelle ça, qui est dans les Luna Park, un manège qui monte et qui descend, etc. C'est bon, quand on parle de l'histoire des déserts, la Torah était donnée dans le désert, tout le monde sait, on se prépare maintenant, on attend Torah, les jours de Sfirat HaOmer. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le désert? Le Maharal, il parle beaucoup de ça dans ses livres. Et il dit que le désert, en vérité, c'est le meilleur lieu de monde. C'est l'idéal. De vivre dans le désert, c'est l'idéal. On s'appelle le Maharal. Nous, on est très urbanistes. On a l'habitude avec tout ce qu'il a. La ville nous propose, alors ça nous paraît horrible de vivre dans le désert, n'est-ce pas? Mais le Maharal, il a un autre regard. Le Maharal, il dit que de vivre dans le désert, ça veut dire justement d'être complètement détaché de la civilisation, détaché de tout dérangement. Et ça nous permet, quand on est dans le désert, quand on se met à réfléchir sur quelque chose qui est intellectuel, de ne pas être dérangé du tout, et de ne pas être influencé de l'environnement, parce qu'il n'y a pas d'environnement, il n'y a rien du tout. Et donc, on arrive à clarifier chaque sujet jusqu'au bout. On voit par exemple que mon cher Rabbeinu, il a cherché aussi d'aller toujours avec les bétails des Yitro à Haramidbar, vers le désert. Vous voyez? C'est-à-dire que même avant Matan Torah, mon cher Rabbeinu, il était attiré par cet désert. Donc en vérité, quand nous on dit désertique, désert, et nous on parle de ça de façon péjorative, dans le système de la bria, de la création, en vérité, le désert est un symbole pour le Maharal des meilleurs endroits qu'on peut trouver quand on essaye de se coller vraiment avec ça qui s'appelle Rouhaniyut, avec quelque chose qui est spirituel. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, aujourd'hui il y a déjà des portables qui fonctionnent aussi dans le désert, donc c'est fichu avec les satellites. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça, d'accord, quand Israël s'est trouvé dans le désert, il s'était bien même détaché, déconnecté de tout ce qui représente le monde. Alors c'était l'idéal de leur donner la Torah d'Afkaou dans le désert. Donc, c'est dans le même sens qu'il faut comprendre les histoires de la Gemara, des voyages de Rabba Bar Bar Hana, parce qu'il y a là-bas plein de histoires. Quand la Gemara dit que Rabba Bar Bar Hana s'est installé dans le désert, je ne suis pas forcé de dire qu'il était physiquement dans le désert. Je veux dire qu'il s'est déserté. Donc on va dire les machins qui sont fermés à la maison, il a baissé les rideaux, il a baissé le volet, il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, il est tout seul et il se met à réfléchir. Comment est-ce que les choses il fonctionnent? D'accord? Alors il s'imagine être dans le désert, et il s'imagine qu'il met son sac, et il s'imagine qu'il y a un Ismaël, il ne faut pas oublier, Ismaël ça veut dire Shamaël, ça veut dire qu'on entend ici la voix divine. C'est-à-dire qu'on arrive à écouter des choses qui en vérité sont divines. Et quand il a approfondi dans ses réflexions sur les sujets de la Parnassa, il a compris qu'il c'est comme ça. Aujourd'hui je suis en bas, et demain je suis à haut. Aujourd'hui je suis à haut, demain je risque à me trouver en bas. Galgalhu, chez Roser, ben voilà, ça tourne tout le temps. Donc il ne faut pas être désespéré quand ça ne va pas, et il ne faut pas devenir sous quand ça va trop bien. Vous voyez, les choses correctement, de garder son calme et quand on passe un moment difficile, et quand on passe un moment joyeux, il faut essayer d'être toujours raisonné. Maintenant, il y a des trucs, là. Quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, il aimerait bien que cet argent reste chez lui, justement. C'est le derrière Bnei Adam, le derrière Klal. Alors, le Chachamim nous a donné des conseils, comment faire pour que son argent, il sera conservé au maximum de temps possible. Par exemple, ils ont dit que celui qui donne beaucoup de tzedaka, ça lui aide à garder au maximum son argent. Parce que la tzedaka, la Gemara, elle compare ça au melach, au sel. Vous savez que chaque chose qu'il est conservée dans le sel, il tient très longtemps. La tzedaka, c'est le sel de l'argent. Quand on donne beaucoup de tzedaka, l'argent, il se conserve plus longtemps. Maintenant, pour la tzedaka, il y a aussi des dinim. Il ne faut pas exagérer non plus. Parce que comme ils ont limité, ils ont dit que le maximum qu'il faut donner, c'est 20%. Donc celui qui dépasse ça, son argent il est trop salé. C'est pas bien non plus. Donc chaque chose il doit se faire d'après les gdarim de la loi. Et la tzedaka c'est une mitzvah comme tous les mitzvot. Il y a des chapitres dans le Shulchan Aruch qui définit bien comment il faut faire la tzedaka. Mais quand on a fait, il tape un galgal alav, une personne qui a fait son argent par ses moyens propres, ça veut dire pas par l'aide d'Hachem, et là par son travail, ou qui c'est quelqu'un qui lui a aidé, alors cet argent, il ne va pas rester pour toujours, il va tourner et il va se trouver maintenant chez quelqu'un d'autre. Ve'avada osher, il va perdre son richesse. Ve'yarad plaim, et il va tomber plaim. Ce sera miraculeux devant les yeux des gens, comment une personne qui était tellement riche hier ou avant-hier, il se trouve tellement basse aujourd'hui. On a vu ça les dernières années, pratiquement tous les gens qui ont gagné tellement d'argent à la bourse ou au Nasdaq, comment est-ce qu'ils ont perdu toutes les richesses à une vitesse incroyable. Et personne n'était capable de prévenir d'avance et de savoir qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention, qu'il faut au moins sauver une partie de l'investissement. Au contraire, ils ont gagné, reinvesti, jusqu'en fin de compte, pratiquement tout leur argent est parti en fumée. C'est impressionnant. Ou bien il y a un troisième cas dans lequel c'est encore pire. Il y a aussi chamour dans les râteaux, les tordeaux ou les avideaux. Des fois on voit des gens qui leur richesse les rend fous, qu'ils n'ont plus de calme, qu'ils n'ont plus de vie, qu'ils n'ont plus de repos, sont tout le temps souciés, tout le temps inquiets, tout le temps ils pensent que tout le monde ils essayent de leur voler, que tout le monde essaye de profiter d'eux, ils deviennent paranoïaques, ils deviennent fous, ils divorcent leur femme parce qu'ils croient que leur femme elle veut aussi juste leur argent. Après ils vont tomber dans les affaires, après ils vont perdre leurs amis parce qu'ils de nouveau ils commencent à soupçonner que les amis sont là uniquement à cause de leur argent. Donc un type qui est riche, il risque de se trouver en fin de compte sans famille, sans amis, sans rien du tout, et sans vie surtout. Il ne vit plus. Donc ça c'est le pire, d'avoir tellement de l'argent et de ne pas profiter. Et je ne vous parle pas des choses théoriques, je vous parle des choses que j'ai vues malheureusement chez les autres. V'avoteach b'Hashem, chesed yesorevem. Et celui qui a vraiment la bitachon b'Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va lui entourer avec de la grâce. Ça veut dire qu'il va gagner, en fin de compte, même des choses qu'il ne mérite pas de gagner. C'est la bitachon lui-même qui donne tellement de mérite qu'en fin de compte, la personne il risque de gagner des choses qu'il n'était pas censé de gagner d'après ses droits propres. Mais la bitachon lui donne le droit de rester. Et même si au départ, il y a l'épreuve, comme on a dit, il ne faut pas y penser que justement je ne gagne pas assez d'argent parce que je suis religieux, parce que j'y vais à la choule faire la tefila à Tzibourg, donc je ne peux pas prendre n'importe quel travail parce que je suis chômeur Shabbat, parce que je vais à un cours de Torah, etc. Non. Rak ki Hashem tzadik ivran. Hashem il est en train de faire quoi? De faire le mivran. Ça veut dire il interroge les tzadik, il teste les tzadik. Velo nitkenu alilot. Et Akadosh Baruch Hu, il prépare maintenant les alilot, ça veut dire tout ce qui va arriver dans la suite. Udetav alei avdele. Et Akadosh Baruch Hu, il gère tout vers le bien de la personne. Vesof akavod, lavod. Et en fin de compte, les kavod et l'argent, ils vont venir. Il faut juste avoir un peu de patience. Usleimut midat habitachon. Et si quelqu'un il a envie de devenir un Baal Bitachon entier, Shelo Yivtach Ba'adam Klal Uklal, c'est que l'homme il va décider qu'il ne fera pas du tout confiance aux autres. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout se pendre sur l'aide des gens. Velo Yakpid Al-Shum Adam. Et ce n'est pas la peine même de s'énerver, de se fâcher contre quelqu'un qui fait quelque chose contre lui. Une personne, il est venu, il me dérange au travail. Il me laisse pas gagner. Il a ouvert juste une affaire à côté qui vend la même chose que moi. Donc maintenant, j'ai perdu la moitié de la clientèle. C'est très embêtant, c'est sûr. Je dis pas que c'est permis de le faire. Mais si quelqu'un il a vraiment bitachon, même un événement pareil, il ne doit pas lui embêter. Peut-être c'est un signe d'Hachem que cette activité est la plus intéressante. Et il faut qu'il change de métier. Il ne faut pas être toujours au têtu et s'accrocher à tout prix à son ancien métier. Des fois, on voit que ça ne marche pas, alors il faut avoir l'intelligence d'arrêter. Vous imaginez des gens qui ont fait de métier qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, s'ils seraient têtus et ils resteraient dans le même métier, ça devient une catastrophe. Vous rappelez les horlogères à l'époque, avec leur petit machin en soleil, quand ils réparent. Il y avait des centaines, il y avait des milliers. Tous ces gens-là, s'ils n'auraient pas eu l'intelligence d'échanger un peu leurs activités, ils étaient tous morts de faim aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une partie qui mourrait de faim, je ne sais pas. Mais c'est évident qu'on n'a pas à s'énerver contre quelqu'un qui nous dérange notre travail, parce que c'est sûr que si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas voulu qu'il va s'installer ici, il ne pourrait pas le faire. Et s'il l'a fait, Akadosh Baruch Hu est dans les coups. Donc, l'oïakpid al-shumada, c'est pas la peine de se fâcher contre quelqu'un. Qui a mis le monash leima, chez akol shluchei de rachmana aninu. Il faut croire qu'ils sont tous les envoyés de Hachem. Ve'arbe shluchim la makom, akados bakou, il se sert de tout jour des envoyés. Im le tov, im le mutav. Des fois l'autre il me fait de bien, des fois l'autre il me fait de mal. Ça change rien du tout parce qu'il est de toute façon l'envoyé d'akados bakou. Et là, c'est vrai que l'autre, de son côté, il a fait une méchanceté quand il s'est installé à côté. Mais ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un principe qu'il dit. Megalgelim zhut al yedei zakai, le chova al yedei chaya. Akadosh Baruch Hu, il cherche à trouver les envoyés qui ont la qualité et la personnalité par rapport aux missions. C'est-à-dire, si c'est une personne gentille, Akadosh Baruch Hu, il va lui aider de faire de la gentillesse aux gens. Et si c'est une personne qui est méchant, alors Akadosh Baruch Hu, il va se servir de lui comme le messager qui va aller faire des mal aux gens. Ça dépend. Alors il faut toujours essayer d'être, bien sûr, un envoyé pour faire des biens. Et maintenant, il dit le Pélioès, c'est cette phrase-là, il faut se rappeler. Ve'im yamdu kol ha'olam bekaf moznaim lehara o leitiv lo kechut ha'sara ugzeirat ha'makom bekaf shnia Machriaï et Kula. Dit le Pele Yoetz, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé par exemple de me faire des biens, ou bien Akadosh Baruch Hu, il a décidé de me faire des mal, même si le monde entier il va se préparer maintenant pour me faire des mal, même si le monde entier, ils vont se mettre dans une dans une partie des balances, dans un plateau, et vont essayer de pencher vers les côtés du mal. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il maintenant il va m'arriver des biens, alors même si le monde entier va se mettre, on va mettre toutes les globes sur un plateau, et il va essayer de m'amener vers le mal, ils n'arriveront jamais. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de me faire des biens. Et le contraire, si Chas V'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il veut punir quelqu'un, même si le monde entier va essayer de lui protéger, il n'arrivera pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui punir. Comment il va arriver sa punition? On ne sait jamais. Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs, il a ses moyens, il dépend des personnes et il arrive à faire les choses. Chaque fois après qu'on entend parler d'un attentat, si vous allez n'importe si on est en Israël ou ailleurs dans le monde, d'accord? Ça peut être en Indonésie, n'importe où. Si vous allez lire après les anecdotes, les histoires des gens, combien de fois une personne il était censé être là et au dernier moment il est arrivé une raison qu'il n'a pas pu être là. Et combien de fois le contraire? Cette personne ne prend jamais les bus. Et juste aujourd'hui, sa voiture a tombé en panne. Il l'a mis au garage, donc il a pris les bus et ce bus il a explosé. Alors ça peut être déjà 5 ans qu'il n'a pas mis ses pieds dans le bus et juste aujourd'hui il l'a pris. C'est ça qu'il appelle les Pele Yoetz, même si toutes les circonstances ils vont faire qu'il sera protégé, ça ne marchera pas. Parce que si maintenant le moment est arrivé de lui punir, il sera puni. Et ce sont des choses que vous pouvez vérifier cas par cas, et vous voyez que chaque fois qu'on tient un événement pareil, on trouve là-dedans des gens qui étaient censés être là, qui ne sont pas là, ou qui n'étaient pas censés être là, et ils sont là. Après ça, j'ai raconté aux gens des histoires, et je trouve nécessaire de les raconter, parce que je pense qu'ils sont très importants. Une, c'est l'histoire qui raconte le Ben Ishraï. C'est une personne qui, a priori, était punie d'Akadosh Baruch Hu, et chaque affaire qu'il touche, il casse. Vous connaissez certainement aussi des gens pareils, qui n'importe quel travail qu'ils essayent de faire, ça ne marche pas. Comme l'Ibn Ezra, il écrit une fois dans son Pérouche, si j'étais un vendeur de bougies, c'est sûr que le soleil ne va jamais coucher. Parce que les pauvres, ils ont essayé de faire beaucoup de parnassot. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois quand il touche quelque chose, ça ne marche pas. Donc il a présumé que si il sera le vendeur des bougies, voilà ce qui va lui arriver. Et s'il va fonder une société des pompes funèbres, malgré que ça travaille très fort pour elle, vous avez remarqué. Alors dès qu'il va fonder sa société, à Akadosh Baruch Hu, il va faire Kriyat HaMetim. Il a déjà compris ça. Donc il essaye même plus. Voilà, il vit dans la pauvreté. Donc l'histoire que Ben Ishraï raconte, c'est aussi d'un messier pareil, qui n'importe qu'est-ce qu'il essaye de toucher, il y a toujours une catastrophe qui arrive et il ne gagne jamais correctement sa vie. Et dans son vie, il y avait un monsieur riche qui voulait bien lui aider parce que ça lui fait très mal au cœur de voir comment est-ce qu'il est pauvre. Il souffre, mais il était gêné comme ça d'aller lui voir et de lui remettre de l'argent à la main. C'est honteux. L'autre, c'était pas un mendiant officiel. C'est juste une personne pauvre qui l'essaye, il n'arrive pas. Alors il a réfléchi, comment je vais faire pour quand même lui aider. Donc il a tombé sur une idée géniale. L'autre, il va à la choule tout le matin et il passe juste en dessous de la fenêtre de cette riche. Il a dit, les riches, voilà ce que je vais faire. Je vais lui attendre tout le matin à côté de la fenêtre. Et quand je lui vois de loin et je vois que la rue est relativement vide, je vais faire tomber un portefeuille plein de billets, pas portemonnaie. Un portefeuille plein juste sur son chemin, et quand il va arriver, il va trouver ça, et voici, il aura de l'argent. C'est gentil, non? Alors, l'histoire qu'il raconte de Ben Ishraï, il s'est réveillé ce matin, heureux, dans lequel il était censé trouver un portefeuille plein. Alechem Valkol Israël. Et il se lève, il est complètement déprimé parce qu'hier il a essayé aussi quelque chose et ça n'a pas marché du tout. Et encore il a perdu un petit investissement. Alors il n'a même pas envie de se lever de son lit. Après il dit, bon, je suis quand même un juif, il faut aller à la choule. Ça c'est une affaire gagnant à tous les coups. Alors il se lève, il prend son talit, il marche dans la rue, mais il est très triste, très angoissé. commence à réfléchir comment je vais faire maintenant. Je vais aller me mettre sur la tefila comme ça en tristesse. Ça se fait pas, vous savez. Il doit être un bécifra. Et donc, il marche et il pense et il se dit, tiens, peut-être il y a quand même quelqu'un qui est plus malheureux que moi. C'est qui? C'est les aveugles. Un aveugle qui voit rien, c'est vraiment une catastrophe. D'abord, il a beaucoup de mal à gagner de l'argent, ça c'est évident. Mais pour ça, il ne peut pas profiter de toutes ces beautés de la nature que je vois moi, et de reconnaître les gens, etc. Ça doit être affreux d'être aveugle. Alors il s'est dit, pour comment sont-ils? Qu'est-ce que c'est un aveugle? Qu'est-ce que je vais faire? Je connais la route, c'est tout droit. Je ferme mes yeux et je vais marcher jusqu'à l'angle de la rue, yeux fermés. Alors vous imaginez, le riche, il est là-haut en train de regarder comme ça, avec une aile pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il voit qu'il est type, il marche. Et il voit comment est-ce qu'à un moment, il ferme ses yeux. Et il avance. Mais il a très envie de lui crier, tu pêches, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Mais s'il va crier, ça y est, il a raté le coup, parce que le but de l'opération était de ne pas faire honte à l'autre. Alors il se retient à peine, et il voit comment est-ce que le type, il avance, et il rate les portefeuilles, évidemment, et il arrive à l'angle de la rue, et il ouvre ses yeux. Il a dit, voilà, il n'y a rien à faire. Il a dit, donc, il ne veut pas qu'il gagne. Combien de fois vous avez fait un exercice pareil? De jouer en aveugle. Moi, j'ai fait ça une fois, après que j'ai lu cette histoire. Je me dis, il faut essayer. J'espère que je n'ai pas raté une portefeuille. Quand même, on voit bien que quand une personne, il est pas béni, il n'est pas béni.
C'est ça.
Il n'y a rien à faire.
Oui.
Il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire.
En tous les cas, ça c'est une histoire. Une deuxième histoire, c'est juste le contraire. Ce sont les deux sens qui parlent ici de PLES. C'est l'histoire qui est arrivée avec les Baal Shem Tov et ses élèves. Dans la Shem Tov, de temps en temps, il a pris ses élèves et il a sorti avec eux dans la nature, dans la forêt. Il n'y avait pas un désert, donc il devait se satisfaire avec une forêt. Et dans la forêt, il les a enseignés des choses qui étaient très profondes, justement, qui demandent une concentration exceptionnelle et qui c'est difficile de les faire en vie. Et les élèves, ils écoutent les cours, et les cours, il est extraordinaire, quand les bachelors, il est capable de les faire, c'est pas la peine de vous le dire. Et à un moment, il y a un de ces élèves qui sent qu'il a très soif. Il a vraiment soif. Mais les bachelors, ils parlent des sujets très élevés, des secrets de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi, attendez, j'ai soif. Ça se fait pas, c'est honteux. Alors il s'est dit, bon, il va arrêter d'ici quelques temps, je vais aller chercher de l'eau. Alors il s'est retient très fort. Je m'excuse si c'est ce qu'ils ont écouté déjà. Il s'est retient, et au bout de quelques temps, il sent que vraiment c'est dramatique, il est déshydraté. Mais il voit les têtes de tout le monde, et les Baal Shem Tov avec son visage saint, avec comment est-ce qu'il n'est pas là, il est là-haut. Et comment il va lui arrêter de son cours pour un problème idiot pareil? C'est pas possible, ça se fait pas. Alors il s'est dit, je me retiens. Mais au bout de quelques temps, il a senti que c'est vraiment une question de vie et mort. S'il ne va pas boire tout de suite, il risque de mourir. Alors il arrête le bachetot, il a dit, Rabbi, excusez-moi, j'ai soif jusqu'au point de mourir. Excusez-moi, je dois aller chercher de l'eau. La chaîne d'or, il ouvre ses yeux, il le regarde et il lui dit, dis-moi, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il sait que tu as soif? Il cherche pas maintenant des discussions philosophiques, il cherche en bouteille d'eau. Mais bon, il est quand même Mahamine, alors il a dit, certainement, Kadosh Baruch Hu, il est au courant. Il dit, ben, est-ce que tu crois qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'il est au courant que tu es soif, il t'a déjà préparé l'eau ici? Regarde à droite et à gauche, il n'y a rien. Hein. Mais il dit, probablement. Il dit, ben, est-ce que tu es sûr? Et l'autre, il meurt de soif, vous comprenez? Et questionné quand même, hein, parce que tu lui demandes, il doit répondre, il réfléchit, il dit oui, je suis sûr. À peine il a terminé la phrase, il y a une gouille, on entend de loin un bruit, et il y a une gouille qui est en train de courir, et il a sur les épaules le machin des puiseurs d'eau, avec des grandes...
Des vaisseaux
pleins d'eau. Et il court direct vers eux. Et quand il voit là-bas des gens, il s'arrête. Il dit, heureusement que je vous ai trouvé. Parce qu'il pouvait me protéger. Ils n'ont rien compris, mais le Bachetot, il fait un signe à son élève. Que... Alors, l'élève, il ne s'intéresse pas tellement de la protection des puiseurs de l'eau, et il dit, monsieur, est-ce que je peux, s'il vous plaît? Bon, bien sûr qu'il a dit oui, et il a fait une bracha comme il n'a jamais fait de sa vie. Je suis à col, bien comme il faut. Et il a peut-être vidé une entier. Bien. Après, dit le Baal Shem Tov, est-ce que tu peux nous raconter, si ça ne te dérange pas, qu'est-ce que tu fais ici au plein forêt avec des vaisseaux d'eau, comme ça? C'est là que tu es un puiseur d'eau, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, je vous dis, Rabbi, la vérité. C'est un goy, mais il sait que c'est un rabbi. Monsieur le rabbin. Voilà qu'est-ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Moi, je suis un piseur d'eau. Et tous les jours, je pisse de l'eau et je les vends aux habitants du village. J'y sors aujourd'hui. Je commence à faire les tours. Et les gens achètent et tout va bien. À un moment, je retourne au puits, je pisse dehors. Et il y a dans un coup, les parites, qui est le pouvoir des villages, qui se promène dans la rue centrale, des revolvers sur lui. Il me voit, je ne sais pas qu'est-ce qui lui pique. Il sort ses deux revolvers. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous ici avec l'eau? J'en ai marre de te voir ici. Tourne-toi et va-t'en, je ne vais pas te voir. Et je lui dis, mais où je vais aller? Il a dit, n'importe où, va dans la forêt, je ne vais plus te voir. Je commence à essayer de l'expliquer, c'est ma parnassa, c'est mon travail, je le fais tous les jours. Je vous amène à vous-même de l'eau, vous avez besoin de moi, ça veut dire que je vais aller au forêt. Je ne suis pas un singe. Je commence à parler, il sort le revolver et il tire à côté de mes pieds. Donc j'ai compris qu'il y a un problème sérieux, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me dis que ma vie, ça vaut plus que ça, et j'ai commencé à courir. Et tellement bête je suis, à la place de jeter au moins les vaisseaux avec de l'eau, je l'ai gardé sur moi et j'ai couru avec. Et maintenant je me demande pourquoi je devais le faire, je pouvais courir beaucoup plus vite sans ça. Et voilà comment est-ce que l'élève de Baal Shem Tov, il était sauvé des morts grâce à un goy qui est devenu fou et l'autre qui il était assez bête pour garder l'eau sur ses épaules. Quelqu'un l'a dit, eh bien, quelqu'un qui s'appelait Sadar Poussé. On va appeler lui, bientôt il sera oublié. Combien de pères il a fait aux habitants d'Israël, ces types-là? Je vous ai déjà dit, j'étais il y a 12 ans dans la première guerre des Golfes. Qu'est-ce que les gens ils ont eu peur? Mon père, Zichrono Livracha, et ils sont embêtés avec cette masque quand il y avait les alertes. Et il n'a pas arrêté de me dire Saddam Hussein, je me rappelle de ça. C'est rachat, comment il a dit. Mais comme lui, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens qui sont morts parce qu'ils ont essayé de mettre les masques, ils n'ont pas arrivé, etc. Et soi-disant, les activistes, ça qui s'appelle les bitronistes, ceux qui savent faire les bitachon, Sarah Bitachon, ministre, pas de la défense, de l'assurance. Hein. Bitachon, ils vendent les bitachon. Aujourd'hui, c'est le jour de la dépendance de l'État d'Israël. Dépendance. Et Shamir, qui était à l'époque le premier ministre, qui tout le monde sait que c'est un grand héros, hein, Mossad, machin, celui qui connaît un peu l'historique. Les grands charons. Il n'a pas osé de faire quoi qu'il soit contre Saddam Hussein. Ni Shamir, ni Sharon. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des Shamir et des Sharon avec leur bitachon. Ils ont des goyim fous, un qui s'appelle Bush. L'autre qui s'appelle Blair. Elle est dégoïne. Ils vont se battre contre le monde entier pour aller détruire un Saddam Hussein. Et nous, on ne fait rien du tout. On tourne les pouces. On bouge même pas. C'est les déboyens qui deviennent fous et qui les font. Et maintenant, ils vont se trouver dans des tsarots trop gros à cause de ça. Ils ne savent pas quoi faire maintenant. Elle va savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais le problème est pourri pour elle. Et les habitants d'Eretz Israël, ils sont libérés. Il n'y a plus de problème. Voici comment Kadosh Baruch Hu gère les mots.